Je vous salue dans le précieux nom de Jésus et je voudrais nous rassurer, vous rassurer que c'est nécessaire de se rejoindre comme ça pour écouter la parole de Dieu. C'est nécessaire de se rejoindre comme ça pour être édifié. C'est nécessaire de se rejoindre pour que la grâce de Dieu soit véritablement manifeste dans nos vies. C'est nécessaire parce que l'homme a une vie après la mort. Et la Bible dit que celui qui croit en moi ne mourra pas, même s'il meurt, vivra même s'il meurt. C'est nécessaire parce que ce monde a un aimant, une direction. Et la direction de ce monde, c'est la direction du diable. Pour ceux qui ne le savaient pas, Satan existe. Je l'ai rencontré quelques fois dans ma vie, mais je ne suis pas le seul, vous aussi certainement. Et même si vous ne l'avez pas rencontré directement, vous avez forcément senti les effets de sa présence. On les ressent aujourd'hui dans le monde au travers de la sorcellerie, les sacrifices humains, la destruction de certaines familles par les sorciers, le satanisme, par les impuretés à outrance, le péché, le mal, en d'autres termes. Amen. Est-ce que vous m'entendez?
Oui. Oui, oui.
On m'entend bien?
Oui, oui. Amen.
D'accord.
On t'entend super.
Alors, pour toi qui doute de l'existence de Dieu, et même, j'ai envie de te dire que voir l'existence du diable te fait comprendre que Dieu existe parce que le diable est une créature. Et bien aimé, plusieurs fois je me suis retrouvé dans des discussions avec certaines personnes qui me disaient, des athées qui disaient non, Satan, Dieu n'existe pas et ça. J'ai dit, mais ils ne croient pas au monde spirituel. J'ai dit, mais si tu ne crois pas au monde spirituel, est-ce que tu peux m'expliquer comment quelqu'un arrive, par exemple, à marcher sur l'eau. Si tu ne crois pas au monde spirituel, comment une personne qui a le bras court voit son bras s'allonger au nom de Jésus? Si tu ne crois pas au monde spirituel, comment ça se fait qu'une prostituée qui a connu 150 hommes dans sa vie à l'âge de 18 ans puisse changer du jour au lendemain, soi-disant parce qu'elle a fait l'expérience de l'amour de Dieu? Si tu ne crois pas au monde spirituel, comment ça se fait qu'une personne totalement égoïste, qui était vendeur d'esclaves, celui qui a écrit le son Amazing Grace, devient défenseur de la liberté après avoir fait l'expérience du Christ, lui qui était vendeur d'esclaves? Si tu ne crois pas au monde spirituel, comment un aveugle peut voir? Si tu ne crois pas au monde spirituel, comment quelqu'un au village qui est sorcier peut atteindre, rendre fou une autre personne qui est en ville ou dans un autre pays? Si tu ne crois pas au monde spirituel, comment ça se fait que la plus grande puissance au monde jure sur la Bible pour devenir chrétien? On jure sur la Bible pour être président aux États-Unis. C'est une erreur de ne pas croire en ces choses-là. Et c'est parce que vous et moi, nous croyons en ces choses que nous comprenons en fait que c'est nécessaire d'être édifié. Parce qu'une vie bénie, une vie heureuse, est une vie dans laquelle nous avons de la connaissance sur ces choses. Si tu n'as pas de la connaissance sur ces choses, bien-aimé, tu vas être broyé. Tous les grands de ce monde, toutes les personnes qui aspirent à grand, savent qu'ils ont besoin de connaître ces choses. Et bien-aimé, la Bible dit que tu es la tête et non la queue. Et comme nous sommes la tête et non la queue, et que nous sommes tous appelés à la grandeur, bien-aimé, nous sommes des grands, et tu es appelé à être grand, alors il te faut de la connaissance pour justement rentrer dans la grandeur qui est la tienne au nom de Jésus. J'aimerais, frères et sœurs, que nous voyions ensemble aujourd'hui un thème, moi, qui me secoue, un thème que j'aime vraiment beaucoup, un thème dans lequel il y a beaucoup de mensonges, un thème dans lequel, un thème justement sur lequel certains s'appuient, certains païens, certains non-initiés, et même certains qui ont perdu la foi, et même certains qui sont chrétiens, mais ne connaissent pas ces choses, c'est le don des langues. On va te dire, oh non, mais vos choses que vous racontez, qu'est-ce que c'est? certains exégètes de la Bible, quand je parle d'exégètes de la Bible, je parle ici de spécialistes de la Bible, donc des scientifiques, disent non, c'est pas exactement ça, c'est la Bible, c'est un peu imagé, c'est pas les rabababababa. Bien aimé, ce soir, nous allons voir qu'ils ont tort. Et surtout, ce soir, nous allons comprendre l'importance et la puissance de ces choses. Bien aimé, lorsque tu comprendras la puissance du don des langues, tu vas comprendre que quand on veut te voler ton mari, je connais un couple comme ça, il y a une petite dehors qui vole le mari de l'autre et en faisant des fétiches et choses comme ça. Bien aimé, tu vas comprendre que prier en langue pendant un bon moment peut détruire les œuvres des ténèbres.
Amen.
Nous allons comprendre et apprendre ensemble aujourd'hui que la prière en langue, le don des langues, la prière dans l'esprit est un puissant, mais puissant, c'est une puissante source de joie. Bien aimé, c'est même un médicament contre la dépression. Je me rappelle, un jour, j'avais une amie qui était complètement dépressive. Elle avait de gros problèmes d'argent et elle avait de grosses dettes. Elle était vraiment mal. Et puis, elle vient à la maison il y a quelques années.
Merci.
Ok. Et puis elle vient à la maison. Je ne savais pas quoi lui dire. Bien aimé, des fois, quand quelqu'un vient t'exposer un problème, toi-même, tu as tes propres problèmes. Donc, tu ne sais pas quoi lui dire. Ça fait souvent rire parce que des fois, il y a des personnes quand ils m'appellent. Au moment où je veux raconter mes problèmes, la personne dit rapidement ses problèmes. Donc, vraiment, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas exactement. Bon, est-ce que je dois dire mes problèmes? Et donc, elle vient me voir, ne sachant pas quoi dire. Je lui dis, écoute, viens, on va prier ensemble. Et on prie en langue pendant 5 minutes. Et après, elle se met à rire. Et moi, je me mets à sourire. Et puis, on se dit, en fait, tout va bien. Parce que papa est là. Bien aimé, j'aime bien cette parole de Faustine de Kowalska. Elle dit, je me lève le matin avec une épreuve, je m'endors avec une. Quand je surmonte une épreuve, 10 autres se présentent devant moi, mais je n'ai pas peur, car je sais que je ne périrai point. Et bien aimé, le message du christianisme, ce n'est pas de dire qu'il faut supporter l'épreuve, non. Le message du christianisme, c'est ce qui est dans Galates chapitre 5, verset 22, on dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Bien aimé, cette patience dans l'esprit n'est pas une patience pour supporter les épreuves, c'est une patience parce que l'épreuve t'emmène à la gloire. Il faut dire amen fort. Et frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne veux pas juste te dire genre supporte, ça va aller, non. Je veux te présenter ma vie. Je veux te présenter la vie d'autres personnes. Et je veux même te rappeler que dans ta vie, tu as toi aussi, parce que tu es passé par l'épreuve, tu as vu la gloire de Dieu. Bien aimé, bien souvent nous oublions, hein, la Bible dit, c'est David qui parle, il dit « Bénis l'Éternel, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » David écrit ce psaume. Bien-aimé, David est poursuivi par son fils Absalom. Absalom va prendre les femmes de David, coucher avec les femmes de David, humilier David. Et David dit « Mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » David avait déjà tué Goliath. David avait tellement vu la gloire de Dieu, mais à ce moment-là, il était tellement mal, tellement détruit comme vous et moi. Et David se dit à lui-même « Mais mon âme, n'oublie pas que Dieu t'a béni. » N'oublie pas que des fois, il a sauvé ta vie. N'oublie pas que des fois, tu avais de grandes dettes, il t'a aidé. N'oublie pas que tu n'avais pas de travail, c'était difficile, il t'a aidé. Ça n'allait pas avec les hommes et les femmes. Il t'a trouvé quelqu'un, conjoint avec qui tu peux cheminer. David se dit ça. Et quand David rentre dans cette action de grâce, David finit, même si c'est difficile, par voir la victoire sur son fils Absalom. Et là, il se souvient qu'il a bien fait de dire que son âme bénisse l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais vraiment que tu puisses te souvenir des bienfaits de Dieu. Et bien-aimé, ce que nous allons voir aujourd'hui, la prière dans l'esprit, va te permettre de vivre ces choses, va te permettre d'être victorieux du démon. Bien-aimé, vous et moi, nous sommes fragiles et faibles, mais la prière dans l'esprit est véritablement une source pour que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus dans nos vies. Déjà dans nos cœurs, pour la paix, la joie, l'amour, la passion, tout ce que vous voulez, mais à l'extérieur par des manifestations puissantes de la grâce de Dieu et de bonnes nouvelles. Il faut dire amen fort.
Amen.
Et donc, nous allons voir aujourd'hui la prière, bien-aimée, la prière dans l'esprit. Ce thème est un thème en même temps très technique, Mais en même temps, pour comprendre, bien-aimé, ben, il faut pratiquer. La difficulté avec le don des langues, c'est que je vais vous enseigner dessus. Mais même après vous avoir enseigné dessus, vous allez juste à peine comprendre 5% des choses. Il faut pratiquer pour que vous puissiez comprendre à 100%. Celui qui ne pratique pas ne comprendra pas. Je me rappelle, à l'époque, mon mentor donnait ce témoignage d'un journaliste qui voulait faire une investigation sur le don des langues pour prouver que c'est n'importe quoi, que les charismatiques font n'importe quoi. Et là, mais à chaque fois, il enregistre, il va dans les temps de prière, il enregistre les prédications, les gens qui prient en langue. Et puis, il ne comprend pas grand-chose. Et un jour, il arrive à un temps de prière, et là, il dit, tu sais quoi, Dieu, moi, je veux comprendre ces choses-là. Bon, écoute, fais ce que tu veux. Et quand il dit ça, il commence à faire kotokobakata, katakotokobakata. Un ami s'est converti, il est devenu chrétien. C'est un don de l'esprit. On parle de la prière dans l'esprit. Si nous parlons de la prière dans l'esprit, il faut savoir et comprendre ce que ça veut dire prière. Prière, bien aimé, proskuneo, qui signifie adoration, se prosterner, être en relation avec Dieu, être au pied du maître. On a vu ça au catéchisme, c'est communiquer avec Dieu. Comme on dit, c'est parler avec Dieu. Et bien aimé, le catéchisme de l'Église catholique nous dit, dans les numéros 2400 et 2500, que la prière, c'est la relation, c'est une relation avec Dieu. C'est une relation d'alliance. Et il est écrit dans 1 Corinthiens, retenez bien, 1 Corinthiens chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. J'aurais besoin de quelqu'un qui va m'aider à lire la Bible. Je ne sais pas si Esther peut le faire ou bien Andrea. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. J'aurais besoin après que quelqu'un prépare Galates chapitre 5, verset 1. Et une troisième personne prépare Marc chapitre 16.
Verset 2, hein. J'y suis.
Donc 1 Corinthiens 14, 2. Quelqu'un d'autre prépare Galates chapitre 5 à partir du verset 1. Et l'autre, okay. Marc chapitre 16. Vas-y, tu peux lire.
Alors, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car
Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Bien-aimé, la prière est la relation d'alliance avec Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Prier, c'est demander des choses à Dieu. Prier, c'est recevoir l'exaucement de ce que nous demandons. Prier, c'est adorer Dieu. Prier, c'est louer Dieu. Prier, c'est communier à la présence de Dieu. Prier, frères et sœurs, c'est s'élever, ou du moins, c'est s'ouvrir à la grâce et la communion avec Dieu. Prier, c'est embrasser Jésus. Prier, c'est manger avec le Christ. Prier, c'est passer un moment de qualité avec Dieu. Bien-aimé, si nous ne comprenons pas que la prière est ce qui caractérise un chrétien plus que la charité, plus que l'humilité, bien-aimé, nous n'allons jamais avoir une vie chrétienne épanouie. Nous n'allons jamais vraiment être heureux parce que nous n'allons pas boire à la source. La Bible dit, c'est Jésus qui parle avec une Samaritaine, il dit, si tu savais celui qui te parle, tu lui demanderais de l'eau vive, il te donnera une eau et tu n'auras plus jamais soif. Bien-aimé, tu lui demanderais, frères et sœurs, plus qu'avoir un mari, parce que cette femme n'avait pas de mari, elle comprend que Jésus est un prophète, mais bien plus qu'un prophète. Il est fils de Dieu, il est Dieu. La première chose qu'elle dit, Seigneur, c'est donne-moi cette eau. Et pourtant, Jésus lui dit non, tu as eu 4 maris. Le cinquième avec qui tu vis n'est pas ton mari, en fait, tu es en concubinage. Le mot est vilain, hein, concubinage. Donc, frères et sœurs, Dieu n'aime pas ça. Frères et sœurs, elle, plutôt que de dire, Seigneur, comme tu n'aimes pas ça, donne-moi d'abord l'argent pour me marier, plutôt que de dire, Seigneur, je suis une pauvre pécheresse, pardonne, elle dit, Seigneur, donne-moi cette eau. Parce qu'à partir du moment où tu as cette eau, en fait, toute ta vie est transformée. Elle le savait peut-être pas, mais instinctivement, son esprit a compris que celui qui était devant elle au temple pour moi, était celui qui pouvait transformer sa vie, lui donner de se marier, lui donner d'être heureuse, lui donner de la prospérité dans ses affaires, lui donner la paix du cœur, lui donner la vie éternelle. Faut dire amen.
Amen. Amen.
Je discutais amen. Dernièrement avec un ami à moi qui est prêtre. Et puis lui, bon, il n'aime pas trop les trucs charismatiques, prière en langue. Et puis je lui ai dit, mais tu sais, on peut discuter longtemps avec des musulmans, on peut discuter longtemps avec des bouddhistes. Tu peux parler longtemps avec une personne qui a une situation difficile. Bien aimé, la vie est tellement dure que si tu te lèves pour juger l'autre, hein, en fait, tu fais ce que Jésus dit, c'est-à-dire tu regardes la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais en fait, devant toi, il y a une poutre. Mais bien aimé, le Christ, je lui disais que la solution, hein, plutôt qu'à chaque fois dans les homélies, venir dire aux gens, il faut aimer le prochain, arrêter d'haïr, hein, arrêter de vivre en concubinage, arrêter la fornication, arrêter de mentir, arrêter de voler, plutôt que de faire ça, prenons les moyens et disons aux gens, prenons les moyens nous-mêmes de toucher le Christ et lui, il transformera nos vies. Amen.
Amen.
Amen. Et donc, ici, la prière, c'est donc la communion avec Dieu. Ici, le thème, c'est prière dans l'esprit. La prière dans l'esprit. Esprit ici, c'est pas esprit avec grand E. C'est pas le Saint-Esprit. C'est l'esprit, donc ton esprit, c'est-à-dire la personne que tu es. C'est toi. Voilà. Esprit ici, c'est petit E, ce n'est donc pas Dieu. Lorsqu'on parle donc de prière dans l'esprit, il s'agit ici d'une prière dans laquelle la chair a un second rôle. Une prière dans laquelle, en fait, ta chair a à peine 5% en fait, un rôle de 5% devant 95% d'un rôle dans l'esprit. Il s'agit ici, en fait, de prier dans l'esprit, c'est-à-dire prier non pas avec les moyens de la chair. Pour prier, frères et sœurs, nous utilisons notre intelligence. Bien aimé, prier dans l'esprit, c'est prier sans intelligence. Nous allons comprendre. Il y a que nous avons, l'être humain est tripartite, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Pour des raisons d'études, on peut les distinguer, mais en réalité, c'est difficile de... On ne peut pas les séparer, hein, on ne peut pas vraiment les séparer. L'être humain est tout ça en même temps, mais pour des raisons d'études, pour que nous comprenions ensemble, nous allons voir les choses clairement. L'être humain est corps, âme et esprit. Le corps, c'est, j'ai envie de dire, c'est la partie visible. C'est la partie matérielle. Le corps, c'est ce que tu vois. C'est ce qui te permet de toucher, de percevoir, de sentir le monde qui t'entoure, le monde matériel qui t'entoure. C'est ce qui te permet d'exister ou du moins d'être vu, d'être senti, d'être au contact de ceux qui existent matériellement. C'est ça le corps. Le corps est composé de la tête, comme on a vu en sciences naturelles au primaire, la tête, le tronc et les quatre membres. C'est le corps. Nous avons ensuite l'âme. L'âme, bien-aimée. Petite parenthèse, dans Genèse au chapitre 2, nous voyons comment le Seigneur va former le corps avec la terre. Il va insuffler en l'homme une haleine de vie. La vie dont il s'agit ici, c'est l'âme. Âme, en grec, c'est le même mot qui est utilisé. Anima, c'est le même mot qui est utilisé pour âme, qui est utilisé pour vie. L'âme, bien-aimée, c'est le principe de vie. L'âme, frères et sœurs, est le siège des sentiments, des émotions et de la volonté. C'est pourquoi il y a des personnes, il y a des créatures de Dieu qui ont, le corps, l'âme et l'esprit, les êtres humains. Il y a des créatures de Dieu qui n'ont pas d'esprit, qui ont juste le corps et l'âme, exemple, les animaux. Il y a des créatures de Dieu qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de corps, ils ont juste des esprits, c'est juste des esprits, les anges. Et donc, l'âme, qui est le siège des sentiments et des émotions. C'est pourquoi les animaux qui ont une âme, d'ailleurs, quand on fait un sacrifice d'animal pour des choses, c'est leur âme, avec leur âme qu'on travaille. Et l'âme, l'animal qui a l'âme a des sentiments et des émotions, mais il n'a pas d'esprit. Les anges sont des esprits, ils n'ont pas d'âme, donc les anges n'ont pas vraiment de sentiments. Les anges n'ont pas de sentiments. OK. Il y a ensuite l'esprit. L'esprit, c'est le siège de la conscience. L'esprit, c'est nous. Voyez, dans Genèse chapitre 3, il est écrit « un souffle de vie ». Vie, c'est l'âme. Souffle, c'est esprit. Pneuma en grec. C'est d'ailleurs pourquoi dans les voitures, on parle des voitures, les pneus. Hein, c'est l'air. Souffle, l'esprit. Nous sommes souffle. C'est pourquoi nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu, parce que Dieu est esprit. Et donc, l'esprit est le siège de la conscience, des pensées et de la communion. C'est pourquoi les animaux qui n'ont pas d'esprit n'ont pas de conscience, même s'ils ont des émotions. Un animal va t'aimer, va s'attacher à toi, aura de l'affection pour toi, mais n'a pas la conscience qu'il est vivant. C'est pourquoi un animal ne pense pas. L'animal n'a pas d'esprit, donc l'animal ne pense pas. Il ne réfléchit pas. Les anges, par contre, ont la conscience de leur personne. C'est pourquoi ils peuvent pécher librement et devenir des démons. Et ils pensent et ils ont la communion. La communion, qu'est-ce que c'est? La communion, c'est la grâce qu'une personne, une créature va avoir d'être connectée à Dieu. La communion, c'est la partie qui est en relation avec Dieu, qu'on le veuille ou pas. C'est pourquoi un être humain, même s'il n'est pas chrétien, il peut entendre la voix de Dieu dans son esprit. Pourquoi? Parce que son esprit est prédisposé, qu'il le veuille ou pas, quel qu'il soit, à être enfant de Dieu, être en communion avec le Père. C'est pourquoi une personne qui n'est pas en communion avec Dieu est une personne qui vit déjà l'enfer, parce que quelque chose en lui n'est pas normal, quelque chose est déréglé. Son esprit est créé de sorte qu'il soit en communion avec Dieu. Le siège de l'âme, donc des sentiments, tout ça, machin, traditionnellement parlant, c'est le sang. C'est d'ailleurs pourquoi lorsqu'on veut utiliser la vie de quelqu'un dans les sacrifices humains ou même d'animaux, c'est le sang. C'est pourquoi c'est le sang de Jésus qui a coulé sur la croix pour que tu sois sauvé. Pourquoi? Parce que c'est dans le sang que se trouve le principe de vie. C'est pourquoi la vie de Jésus, quand son sang coule sur nous, c'est sa vie qui est répandue sur nous. Et sa vie est échangée par notre vie. C'est d'ailleurs pourquoi celui qui croit en Jésus devient pur et saint. Amen.
Amen.
L'âge de l'esprit, traditionnellement parlant, c'est le cerveau. C'est dans le cerveau. C'est pourquoi une personne qui a un problème au niveau de son cerveau aura du mal à penser, aura du mal à avoir une certaine conscience. Paix joie du Christ. Je sais que c'est très difficile ce que je viens de dire, mais est-ce qu'on se comprend un tout petit peu?
Oui.
Non, dites-moi la vérité. Hein. Si c'est trop bizarre, il faut me dire.
On comprend.
D'accord.
C'est un peu philosophique, mais on comprend.
Melda, c'est bon.
Mais exagère encore, exagère.
On se comprend. OK. C'est important de savoir.
On se comprend. Parce que
dans les religions orientales, on estime que comme l'esprit, justement, a une certaine force, une certaine puissance, c'est possible, justement. Dans les religions orientales, ils se disent que la partie communion, là, ce n'est pas l'homme qui va être en communion avec Dieu, mais c'est plutôt l'homme qui est capable de devenir un Dieu. Vous voyez? Donc, c'est important de connaître ces choses-là. C'est plutôt important, et c'est surtout important pour la suite. Et donc, Lorsque j'unis l'âme et le corps, ça donne ce qu'on appelle la chair. Lorsque la Bible dit dans Galates chapitre 5, tu peux lire Galates chapitre 5 à partir du verset 16. Galates chapitre 5 à partir du verset 16, qu'est-ce que quelqu'un a pris ce passage-là? Je l'ai donné tout à l'heure, Galates chapitre 5. Et quelqu'un d'autre prépare pendant ce temps
Galates chapitre 5, verset.
Commence à partir du verset 16.
Verset 16. OK. Galates chapitre 5, verset 16. Écoutez-moi, marchez sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire.
Amen. C'est bon. C'est bon. La chair, frères et sœurs. La chair ici, c'est la chair unie à l'âme. C'est ton corps. Nous avons vu ensemble que la chair est le siège des émotions et des sentiments. Mais ce n'est pas le siège de la conscience. Donc, ce n'est pas... Nous avons vu que l'âme, plutôt, est le siège des sentiments, des émotions, pas l'esprit. Du coup, l'âme qui donne la vie au corps, bien aimé, la preuve, hein, vous voyez que l'âme donne la vie au corps. Et bibliquement parlant, en fait, le corps est un bout de terre. C'est que, en fait, le corps ne peut pas réfléchir par lui-même, ne peut pas avoir des sentiments par lui-même. Parce que le corps change, bien aimé. Les cellules que tu avais quand tu étais bébé, ce n'est pas les mêmes cellules que tu as quand tu es grand. Les cellules que tu as quand tu as 18 ans ne sont pas les mêmes cellules que tu as quand tu as 22 ans, quand tu as 30 ans. Les cellules se renouvellent. Elles meurent, elles se renouvellent. Bien aimé, si c'était dans le corps qu'il y avait les pensées, les sentiments, en fait, quand tu atteins 30 ans, qui fait que tu puisses avoir des souvenirs, des choses comme ça. Et donc, la chair ici, c'est le corps et l'âme. Et comme l'âme a des sentiments et des émotions, les sentiments et les émotions de l'âme vont influencer le corps et vont être fonction du corps. C'est pourquoi, des fois, tu as des pulsions sexuelles, tu vas avoir envie de manger, tu vas avoir envie de faire du mal à quelqu'un, tu vas envier quelqu'un. Cela ne vient pas de l'esprit, cela vient de ton âme et ton corps. Cela vient de la chair, donc l'âme unie au corps. Et donc, celui qui vit dans la chair, celui-là, en fait, vit sans, j'ai envie de dire, sans direction divine. C'est parce que nous avons un esprit, que nous sommes esprit aussi, que nous pouvons dire à un sentiment négatif. Si je suis, par exemple, amoureux de, je vais dire, je sais pas moi, si, par exemple, j'ai envie, je vois la femme de mon père, par exemple, et que j'ai des pensées bizarres, c'est mon esprit qui fait en sorte que je me dise, oh, c'est pas normal. Je ne peux pas me laisser aller à un sentiment pareil. Lorsque je vois la femme de mon frère, quand je vois le mari de ma sœur, quand je vois mon beau-père, c'est mon esprit qui va dire, oh, je ne dois pas le détester. Je ne peux pas avoir des sens, je ne peux pas avoir des pulsions sexuelles envers lui. C'est-à-dire que c'est mon esprit qui va dire ça. C'est mon esprit qui fait en sorte que tu te dises, j'ai faim, mais je suis en train de jeûner, je ne dois pas manger. C'est mon esprit qui dit que, oh, j'ai faim, mais je suis au milieu des gens. Je ne peux pas manger n'importe comment, ma belle famille est peut-être là, il faut que je fasse genre. Ça, c'est mon esprit qui fait ça. Et donc, prier en esprit permet justement d'être détaché des réalités de la chair. C'est pourquoi prier en esprit est d'un grand bénéfice, parce que celui qui prie en esprit, en fait, permet à son esprit d'être à 100%, à sa personne, d'être à 100% connecté avec Dieu, de sorte que la chair n'interfère pas dans notre communion, dans notre relation, dans notre discussion avec Dieu. Amen. Regardez, démonstration. Lorsque je prie dans la chair, je peux des fois demander des choses que Dieu ne veut pas pour moi. Quand je prie dans la chair, Pendant même que je suis en train de prier, je peux être inquiet en me disant, Seigneur, je prie, est-ce que ça va même marcher? Est-ce que tu m'entends? Depuis là, je n'ai pas de voiture. Pourquoi est-ce que ma sœur est morte? Voyez, la chair. Celui qui prie en esprit ne se soucie pas de ces choses. Celui qui prie en esprit se connecte à Dieu et permet à Dieu d'être pleinement présent dans sa vie, de sorte qu'il ne traîne pas le bagage de ses pulsions, de ses désirs et de sa volonté. Est-ce que vous comprenez maintenant?
Amen.
Ma science comprend. Je sais que c'est très technique. Oui. Voilà. Celui qui prie dans l'esprit, en fait, va se soustraire aux convoitises de la chair, de sorte que sa prière soit à 100% dans la volonté de Dieu. Quand tu pries dans ton intelligence, ce n'est pas évident que ta prière soit à 100% dans le Seigneur. Pourquoi? Mais parce que quand tu pries ainsi, il y a ton histoire, il y a tes pensées, il y a tes désirs, il y a tes colères et tes sentiments, il y a même ta fragilité, tes faiblesses humaines, ton incapacité. Je veux dire, tu ne vois pas, il y a véritablement ta faiblesse humaine. Lorsque tu vas prier, tu ne sais pas forcément comment fonctionne le monde actuellement. Tu ne sais pas forcément, par exemple, telle personne te fait du mal, tu ne connais pas son cœur. Tu vas dire, Seigneur, le feu sur lui, mais tu ne connais pas. Bien-aimé, même intellectuellement parlant, tu es limité quand tu pries. Même dans tes mots, il y a des limites. Et donc, prier dans l'esprit, c'est prier dans la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi celui qui prie dans l'esprit est toujours exaucé au nom de Jésus. Il y a des personnes qui reçoivent des grâces de Dieu sans avoir demandé. Ils ne savent pas que c'est parce qu'un jour, quand ils ont fait « Remba katakaraba sonde », ça voulait dire, en fait, « Seigneur, je veux me marier ». Et puis, en fait, en le disant, puisque c'était une prière dans l'esprit, c'était en fait quelque chose que Dieu voulait pour elle. Amen.
Amen.
Il y a des personnes qui vont dire, « Ah, mais bizarrement, moi, je n'ai pas demandé à Dieu la grâce pour avoir le bac ». En fait, un jour, lorsque tu faisais « Remba katakaraba sonde », le Seigneur, tu étais en train de dire « Seigneur, je veux le bac ». Et en fait, puisque c'était une prière dans l'esprit, c'était une prière que Dieu voulait entendre et que Dieu voulait déjà exaucer. Prier dans l'esprit, c'est prier dans 100% de la volonté de Dieu. Prier dans l'esprit, c'est prier pas toujours exaucé. Prier dans l'esprit, bien-aimé, c'est prier de sorte que tu sois tellement en communion avec Dieu, bien-aimé, qu'en fait, tu peux flirter, excusez-moi de le dire comme ça, et scruter le ciel. La prière dans l'esprit. Amen. Nous allons avancer encore un petit peu. Prier dans l'esprit, c'est donc se connecter à Dieu par notre esprit qui s'abandonne à lui dans la prière et délaisse les moyens de la chair. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que la chair ne rentre pas en ligne de compte. Non. Ça voudrait dire, en fait, qu'ici, la chair ne rentre pas en ligne de compte. Ce qui rentre en ligne de compte, c'est plutôt seulement le corps. J'ai dit tout à l'heure que quand je dis chair, chair ici, c'est l'âme et le corps. Mais ici, notre âme n'a rien à voir. Ce qui va faire quelque chose, ce qui va agir, c'est l'esprit et c'est le corps. Du coup, les pulsions charnelles qui sont liées à la chair, parce que la chair, c'est le corps et l'âme, ces pulsions charnelles-là n'existent pas dans la prière en langue. Amen.
Amen.
Alors, la Bible dit ceci, on rentre bien dans notre enseignement d'aujourd'hui. La Bible dit ceci dans Marc au chapitre 16, le verset 16. Est-ce que quelqu'un peut le prendre? Marc chapitre 16, le verset 16.
Allô?
Oui, allô.
Marc, chapitre 16, verset 16.
Oui.
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mmh. Je continue.
Oui.
Et voici les miracles que feront voir ceux qui auront cru. Ils chasseront des esprits mauvais en mon nom. Ils parleront des langues nouvelles.
C'est bon.
S'ils prennent des serpents.
C'est bon. Le don des langues est miraculeux. Ils parleront des langues nouvelles. Et bien aimé, puisque c'est miraculeux, ça ne peut venir que de Dieu. Le don des langues est un don du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle un don charismatique. C'est un don du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de don des langues. C'est par le Saint-Esprit qui fait la grâce du don des langues que tu peux prier en langue. Et c'est, Jésus parle ici de langue nouvelle. Bien aimé, une langue nouvelle n'est pas une nouvelle langue. Ce n'est pas pareil. Un habit nouveau n'est pas un nouveau habit. Voyez, quand on parle de nouveau habit, par exemple, ah, j'ai un nouveau habit, j'ai un nouveau t-shirt, par exemple. Si je dis j'ai un nouveau t-shirt, ça va signifier en fait que j'ai acheté un t-shirt qui existe, qui est là, mais c'est juste que c'est neuf. Je viens de le prendre au magasin, je viens à peine de le prendre. Mais si je parle de t-shirt nouveau, il va s'agir ici de révolution, c'est-à-dire un nouveau style, un nouveau genre qui n'a rien à voir avec les t-shirts qui existaient avant. Et donc, lorsque nous parlons de langue nouvelle, il s'agit ici d'une langue qui n'a rien à voir avec les langues humaines, des langues connues ou les langues, justement, purement humaines. Une langue nouvelle, les langues nouvelles, qu'est-ce que c'est ? C'est des langues célestes. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, je pourrais parler dans 1 Corinthiens chapitre 13, je pense, je pourrais parler la langue des hommes ou la langue des anges. Langue des anges ici, c'est des langues célestes. Il s'agit ici du don des langues, des dons des langues. Et lorsque nous parlons des dons des langues qui sont célestes, cela signifie en fait que c'est le Saint-Esprit qui nous fait rentrer dedans et c'est important pour le Saint-Esprit de nous faire rentrer dedans. J'aimerais quand même que nous comprenions une chose. Vous vous rendez compte? Le Saint-Esprit vient, va unir l'Église, va faire naître l'Église dans Actes des Apôtres chapitre 2, et le premier don qu'il donne aux apôtres et donc à l'Église, c'est le don des langues. Bien-aimés, Dieu a attendu des milliers d'années pour que le Christ se révèle aux hommes, et bien plus pour que le Saint-Esprit vienne dans la vie de tous les êtres humains, en tout cas de toute chair. Et vous vous rendez compte qu'après ces milliers d'années, après des guerres, après des prophètes, après les difficultés rencontrées, parce qu'il a fallu traverser la mer rouge et tout ça, la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est leur donner le don des langues. Bien-aimés, si le Saint-Esprit fait cela, c'est parce que le don des langues est un don qui est choyé par le Seigneur. C'est un don qui est important pour les hommes. Bien-aimé, le don des langues te fait comprendre que tu fais partie d'une patrie céleste. Le don des langues te fait comprendre que tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Le don des langues te fait comprendre, lorsque tu fais « rembabakatokosane », tu comprends qu'en fait, tu ne peux pas tout comprendre de ce que Dieu fait dans ta vie, parce que tu ne comprends même pas ce que toi-même tu dis. Tu t'abandonnes simplement à Dieu. J'ai envie de dire une chose. Le ciel et la terre passent, les dons passent, mais bien aimé, au ciel on parlera quand même en langue, parce qu'il s'agit d'une langue céleste. On parle de la langue des anges, donc ça veut dire qu'au ciel nous allons parler avec les anges en faisant « rembakatakaraba ». Frères et sœurs, le don des langues est un don qu'il faut aimer. Les gens n'aiment pas le don des langues parce qu'ils se disent « ça ne veut rien dire », parce qu'ils se disent « ce don-là, on va se moquer de moi parce que… » Les gens ne connaissent pas, ne comprennent pas ce que c'est. On veut des paroles de connaissance immédiate. On veut prophétiser. On veut dire, avoir la lecture des cœurs pour savoir ce que les gens pensent dans leur cœur. Bien aimé, le don des langues est puissant. Parce que le don des langues t'ouvre la porte aux autres charismes. Le don des langues te donne d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Le don des langues te donne de prier, de converser avec Jésus à une dimension insoupçonnée. Amen.
Amen.
Des langues. Pourquoi on parle des langues? C'est parce qu'il y en a plusieurs. Et il y en a trois dans le Nouveau Testament qui ont été retenues, en tout cas qui sont signifiées clairement et que les chrétiens peuvent vivre encore aujourd'hui. Premier don, c'est la glossolalie. Glossolalie vient du grec ancien glossa et lalia. Glossa, c'est la langue. Et la lia, c'est bavardage. Quand on parle de glossolalie, il s'agit ici de ce que je fais là, rembakatakaraba. Je ne sais pas ce que je dis, vous ne savez pas ce que je dis, mais c'est quand même un don des langues. C'est du bavardage. En d'autres termes, c'est parler quelque chose que je ne comprends pas. Et bien aimé, la Bible dit dans Corinthiens chapitre 14, verset 1, il y a des gens qui disent, ah, mais avant, quand on priait en langue, il y avait l'interprétation. C'est faux. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Il s'adresse à Dieu et non aux hommes parce que les hommes ne comprennent pas ce qu'il dit. Bien aimé, seul Dieu comprend. Même toi, tu ne comprends pas. Mais tu sais une chose, pendant que tu es en train de faire Rembakata Karabasande, en fait, ton âme est dans la présence de Dieu. Et tu es tellement joyeux. Bien aimé, pour ceux qui le veulent, nous allons prendre quelques secondes. Nous allons chanter en langue un petit moment. Vous allez voir, pendant que nous allons chanter en langue, pendant que tu vas chanter en langue, je veux que tu aies la conscience, en fait, que tu es dans la présence de Dieu. Je veux que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, que tu cesses d'avoir honte. Vous êtes plein ici, avoir reçu le nom des langues, mais vous avez honte d'exercer. Vous avez du mal à exercer. Je veux, à cause de ce que tu sais là maintenant du don des langues, nous allons prendre 2 minutes. Et pendant les 2 minutes, bon, 2 minutes, c'est trop. Nous allons prendre ce... Et pendant les 30 secondes, je veux que tu pries en langue, que tu chantes en langue, avec simplicité de cœur. Torenda katakarabasande. Tonderebasototo chane. Solerimba yatoko soko torimba katosa katandemi. Koseke bosha katakarabasoko tonende. Sorimba katakarabaho kotonende. Kintekerebo chane. Merci mon Dieu. Merci pour le don des langues que tu distribues au milieu de nous. Pendant le temps de cet enseignement, le Seigneur répand la grâce du don des langues. Pour ceux qui ne prient pas en langue et même pour ceux qui prient mais qui ne pratiquent pas beaucoup, qui ont reçu mais qui ont du mal à pratiquer, il y a une grâce de l'Esprit qui se répand maintenant et qui va se répandre tout au long de l'enseignement. Tu vas sentir comment ta gorge brûle. Tu auras l'impression que ta langue et ta bouche s'ouvrent seules. Et pour d'autres, vous allez simplement avoir la conviction que vous l'avez reçue. Ce sera une simple conviction. Simple conviction qui vient du Saint-Esprit. Et tu vas te rendre compte que si tu obéis à l'Esprit, lorsque tu vas faire Rimba Kata Karabasande, que tu vas chanter ou parler en langue simplement, tu vas te sentir apaisé. Il y a une paix qui va gagner ton cœur. Il y a comme une présence de Dieu tellement douce. Tu vas te sentir tellement bien parce que Dieu veut te faire du bien ce soir par le don des langues. Pendant que tu vas prier en langue, il y a des douleurs que tu as dans ton corps qui vont disparaître. Pendant que tu vas prier en langue, tu ne le sais peut-être pas. En fait, tu seras en train d'intercéder pour ta famille. Pendant que tu vas prier en langue, tu seras en train d'intercéder pour ton travail. Tu seras en train d'intercéder pour ton fiancé qui traverse des difficultés ou ta fiancée qui traverse des difficultés. Et puis, en fait, Dieu sera en train de t'exaucer. La prière du don des langues est une prière dans laquelle c'est aller-retour très rapidement. C'est DHL. Pendant même que tu es en train de prier, tu es déjà en train d'être exaucé. Il y en a, pendant que vous allez prier en langue, vous serez en train de prier en langue pour le Gabon et pour les élections. D'autres, pendant que vous serez en train de prier, vous prierez pour chasser les démons dans la vie de plusieurs ici. Est-ce que tu sais que quand tu pries en langue, tu chasses peut-être un démon qui veut avoir accès à ma vie ou à la vie de ton frère à côté? Bien-aimé, ne néglige pas ce don. Beaucoup ici ont du mal avec certains démons. Beaucoup ici vivent des tentations parce que leurs frères refusent de prier en langue. Et donc d'intervenir par la grâce de Dieu dans la vie, dans vos vies, et même peut-être dans ma vie. Je veux que tu cesses de négliger ça. Pendant que tu seras en train de prier en langue, peut-être que tu seras en train de demander au Seigneur une grâce que moi je veux depuis longtemps. Et en fait, puisque tu le demandes dans le Saint-Esprit, il te l'accorde, et donc je la reçois, et je bénis Dieu pour ta vie. Pendant que tu seras en train de prier en langue, tu seras en train de demander la grâce que Dieu suscite des prédicateurs au milieu de nous et donne de la puissance à ceux qui prêchent déjà. Pendant que tu seras en train de prier en langue, tu seras en train de demander au Seigneur la grâce d'une sœur ici qui a du mal à se marier, qui a du mal dans sa vie de foyer. Pendant que tu seras en train de prier en langue, tu seras en train de dire au Seigneur de toucher le cœur de cet homme qui trompe sa femme. Tu seras en train de demander au Seigneur peut-être de toucher mon cœur qui est si dur et si orgueilleux. Tu seras en train peut-être de demander au Seigneur la grâce à quelqu'un ici, que cette personne ait une plus grande expérience de l'amour de Dieu. S'il te plaît, arrête de négliger ce don. Pendant que moi, je serai en train de prier en langue, peut-être que je demande la grâce à Dieu pour une sœur ici qui est tentée de sortir avec un homme pour de l'argent parce qu'elle a du mal à se nourrir, elle a du mal à bien, à se vêtir, elle a du mal à subvenir à ses besoins. Je serai peut-être en train de demander pour un frère ici la grâce de dire oui à Dieu, la grâce de suivre Dieu avec plus de zèle. Pendant que je serai en train de prier en langue, ou toi, nous serons peut-être en train de demander au Seigneur la grâce de purifier l'Église, la grâce d'étendre sa main sur les scandales, d'étendre sa main sur ces prêtres ou ces laïcs qui violent des filles, qui violent des enfants, qui violent des femmes, la grâce pour ces sœurs qui sont dans des saletés extraordinaires, la grâce pour certains frères, certaines sœurs, autant pour moi, certains dignitaires de l'Église, la grâce d'une plus grande vie de sainteté, la grâce même pour que véritablement les personnes qui s'infiltrent dans l'Église se convertissent au nom de Jésus. La grâce. Ne néglige pas ce don. La grâce pour que nos familles se convertissent. S'il te plaît, si tu as reçu le don, ou même si tu sens maintenant que Dieu te fait ce don, tu peux simplement t'accorder avec moi. Tu peux t'accorder avec moi simplement. Ça veut dire que si tu as du mal avec les syllabes et les mots, tu peux simplement suivre ce que je fais pour te permettre justement d'avoir du courage et surtout de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Fais comme moi, toi qui as reçu le don. Fais comme moi, toi qui reçois le don. Korimba kata karabasonde. N'aie pas honte. Sokoto shakata karabasokotonende. Rimbambamba sokotonende. Soremba yatolo kotonde shakata. Indarabasole na shanina. Indeleba sole ne ino shale. Shaelelo sele monele la ya ne la ne lo.
Alléluia.
Seigneur, tu communiques la vie maintenant.
Alléluia. Alléluia.
Tu es élevé. E pre che va son toro coba scettere che va 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 va.
Alléluia.
Honneur.
Amen. Amen.
Amen.
J'aimerais que vraiment dans cette présence de Dieu, tu puisses tu puisses vraiment te laisser remplir, te laisser saisir. Nous avons donc la glossolalie. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Mais puisque nous parlons du don des langues, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule langue. Il y a une multiplicité de dons des langues. Après la glossolalie, nous avons la prophétie en langue. La Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 14, le verset 13, à moins que celui-ci interprète. Le don des langues, la glossolalie, ne s'interprète pas. La xénoglossie, qu'est-ce que je dis? La prophétie en langue, oui, s'interprète. C'est une autre forme de don des langues. C'est ce que dit l'apôtre Paul lorsqu'il dit « à moins que celui-ci n'interprète ». Bien-aimé, le don des langues qui s'interprète, c'est la prophétie en langue, sert à édifier, à reprendre et à consoler. Parce que la parole de Dieu sert à édifier, à reprendre et à consoler. Bien-aimé, dans nos assemblées de prière, c'est un don que nous ne vivons pas beaucoup. Je prie dans le nom de Jésus qu'il y ait des personnes ici maintenant qui reçoivent le don d'interprétation. Nous allons faire un autre exercice charismatique maintenant. Pendant que nous serons en train de prier en langue, certains vont en recevoir l'interprétation. D'autres vont avoir l'interprétation de leur propre don des langues. Et d'autres, vont avoir l'interprétation de moi, mon don des langues. Ce sera une prophétie en langue. Lorsque tu seras en train d'entendre, pendant que tu seras en train de prier en langue ou entendre comment je prie en langue, tu auras l'impression, c'est pas une impression, c'est réel, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Tu auras la conviction de comprendre ce que ça veut dire et surtout, tu auras une clarté. Ce sera tellement clair ce que Dieu dit que tu comprendras que ça vient de Dieu. Il ne s'agit pas ici d'imagination. Quand tu imagines, tu sais, c'est un peu flou. Mais quand ça vient de Dieu, c'est clair, c'est concis, c'est uniforme, c'est harmonieux. Amen.
Amen.
Et quand ça vient de Dieu, bien-aimé, tu sens que tu baignes dans le Saint-Esprit. S'il vous plaît, soyons généreux avec nos charismes, surtout que nous ne sommes que les gérants, nous ne sommes pas les propriétaires. Lorsque nous serons en train de prier, toi qui as l'interprétation de ton propre don des langues ou du don des langues de ce que je suis en train de faire, s'il te plaît, tu ouvres ton micro, nous allons ouvrir nos micros pendant une minute pour entendre ce que les uns et les autres vont recevoir de Dieu. Je prie d'abord. Là, je suis en train de prier, je vois la grâce de Dieu descendre sur vous. Je vois en fait le Seigneur qui dit que c'est un don d'interprétation. Saint-Esprit de Dieu pour ce que tu fais maintenant. Tu es puissant, tu es grand, tu es glorieux pour ce que tu fais maintenant. Sorembambamba, prie en langue, simplement. Il y en a qui va recevoir quelque chose de Dieu, c'est l'interprétation d'un don des langues. Mais comme tu le prends en langue, et que peut-être tu n'entends pas les autres qui sont en train de prier en langue, Dieu peut quand même te donner d'avoir l'interprétation d'un don des langues que tu ne comprends pas. Et ça peut être sous forme de parole de conviction ou de conviction intérieure.
C'est l'une du micro, s'il te plaît.
Korembamambandeketo shande. Sorimba yatoloto shayama sanene solena solena soleno shalemo sanena inareba solena chocolate kekeke tokoroba sakatare mbambandene sorama yatokoba shakatandere basanene korimba takarokoto nene. Quand tu pries en langue, n'aie pas peur de ne rien sentir. Ce n'est pas parce que tu ne sens rien que rien ne se passe. Dieu n'est pas seulement le Dieu des sensations, il est le Dieu de la foi. Pendant que nous sommes en train de prier en langue, il y a quelqu'un qui est en train de recevoir qu'il faut, en fait, dans son langue des langues, il est en train de prier charismatiquement pour quelqu'un. En fait, il est en train de prier pour une intention. Il est en train de recevoir une intention. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir une intention de prière. En fait, cette intention de prière, il la reçoit parce qu'il y a un don des langues qui dit cette intention de prière. Quand on va faire les une minute, s'il te plaît, il faudra te désigner et dire ce que tu as reçu comme intention de prière pour que nous puissions prier ensemble. Sokoroba kata karabasonde. Rimba kata shokotondende. Sorimba yato kotondende. Bien-aimé, fais-le avec beaucoup. Sois tranquille, sois simple. Ne sois pas crispé, sois totalement détendu. Suave, c'est-à-dire avec beaucoup de... Sois tranquille, beaucoup d'élégance, beaucoup de... Sorimba mambande ketusha katondende. Indereba soko torente kerebo sande. Inareba so nina shanina. Kore katata soko tuseke baba. Korenba katata haba rokoto shakata karaba rekete kereba. Korenderebo sayato lokoto shakata karaba rekete kerebo. Soko tokumba katata haba rekete nende. Si pendant que tu pries en langue, tu as des mauvaises pensées qui viennent, tu as des pensées qui viennent de peur, des pensées qui viennent qui te disent que tu ne racontes rien, dans le nom puissant de Jésus, ces pensées, je les lis et je les plonge dans le sang de Jésus, je les soumets maintenant au pied de la croix de Jésus, au nom de Jésus-Christ, que tes pensées soient maintenant soumises à l'action du Saint-Esprit. Sois tranquille et détendu, continue de prier en langue. Ne te laisse pas voir par ces pensées mauvaises et de distraction. Même si ça vient, c'est pas grave, continue, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Donne-toi à Dieu tel que tu es, tel que tu es. Il te veut tel que tu es, tel que tu es. Sorimba mambande keto sakata nene. So sakata kote kete kemba kato kusha. Orabababa. Amen.
Amen.
Nous allons prendre une minute pour ceux qui ont reçu quelque chose. Tu peux ouvrir ton micro et simplement indiquer ce que tu as reçu. On va le faire un peu vite parce que je dois finir. Nous allons finir notre enseignement. Amen. Après notre temps de prière, nous allons prendre quelques minutes de questions et après nous allons prier pour continuer, pour permettre à Dieu de d'étendre sa main encore avec plus de force pour cette intention de prière-là et pour les autres intentions de prière. Gloire à Dieu. C'est une interprétation. Quelqu'un d'autre?
Allô?
Allô?
Allô? Oui, bonsoir. En fait, André, quand tu as commencé à prier en langue, quand tu as commencé à chanter en langue au début, tu étais en train de dire que je ne suis qu'un homme serviteur. Tu intercédais pour que le charisme de prophétie soit plus intense sur toutes les personnes qui sont connectées, que ça se distingue. Ceux qui ont
vérité, le... vérité, amen.
Ça se distingue. Hein? En tout cas, un truc comme ça, là.
Gloire à Dieu. Nous allons continuer dans ce mouvement-là, lorsque nous allons reprier encore. Nous allons prendre 5 minutes encore pour prier après l'enseignement et les questions. Quelqu'un d'autre?
André, moi, j'avais juste à cœur de transmettre un message quand tu as commencé à prier. C'est que le Seigneur communique sa vie. Le Seigneur communique sa vie. Et justement, pour revenir sur ce que Jessica Andy disait, il communique sa vie à travers des charismes qu'il faut exploiter. Exploiter pour la délivrance, notamment en fait, de certaines âmes, attraper au vol et grandir avec la parole de Dieu.
Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un d'autre a une...
Allô?
Oui, allô?
Je peux?
Oui, oui.
Allô, vous m'entendez? Ok.
Oui, on t'entend.
Alors, moi, ce que je reçois, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un ici qui a un blocage particulier dans sa vie. Cette personne a envie d'avoir une vraie intimité avec le Seigneur. Cette personne n'arrive pas. Vraiment, elle a toute la volonté, mais elle a des difficultés. Alors, cette personne a vraiment envie d'avoir une vie de foi charismatique. Et en vérité, c'est dans la prière en langue que le Seigneur l'attend. Donc, alors, lorsque tu priais, il y a eu vraiment ce relâchement sur la personne. Elle a reçu le don des langues. Elle a vraiment reçu le don des langues, mais elle ne l'a pas expérimenté. Voilà, elle n'a pas expérimenté. La vérité, c'est que c'est dans la langue, dans la prière en langue, que cette personne va enfoncer toutes les portes qui ont été fermées. Donc, véritablement, le Seigneur me met à cœur une personne que je vais contacter en inbox, très certainement à la fin. Et cette personne-là doit beaucoup prier en langue. Voilà, vraiment, cette personne doit beaucoup prier en langue. Peut-être que la personne est là et se reconnaît, mais vraiment, c'est dans la prière en langue que le Seigneur l'attend. Voilà.
Amen. Donc, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose? Comme ça, nous continuons notre enseignement. OK. Et donc, la prophétie en langue, c'est donc un don des langues qui peut s'interpréter. Ça marche avec le charisme d'interprétation. Et c'est vrai que c'est un charisme qu'on voit, qu'on exerce de moins en moins dans l'Église. Et bien aimé, je raconte cette histoire-là comme ça. Alors, ma mère spirituelle, un jour, s'est retrouvée à Rome. À l'époque, c'était le pape Jean-Paul II. Et... elle a réussi à avoir un entretien avec lui dans ses bureaux. Et puis le pape lui a dit, je veux que tu pries un peu, prions un tout petit peu. Et le Seigneur lui met à cœur, prie en langue. Et là, elle fait Rimbakata Karabaso Kotonde. Elle a un don des langues où quand elle prie en langue, c'est vraiment avec beaucoup de... C'est pas forcément beau à voir, elle prie avec beaucoup de force. Et là, elle ouvre les yeux parce qu'elle se dit, bon, je suis devant le pape, comment ça va se passer? Elle ouvre les yeux, bien-aimée. Et le pape est en train de prier avec elle. Le pape lui dit, Jean-Paul II lui dit, genre, continue. Je ne sais pas comment on dit ça en italien. Genre, vas-y, bien, continue. Et elle continue de prier en langue, bien-aimée. La dernière convention du renouveau charismatique, en tout cas, l'une des dernières conventions du renouveau charismatique à Rome, nous avons prié en langue avec des cardinaux, frères et sœurs. C'est important de souligner ça parce que le don des langues n'est pas nouveau dans l'Église de Jésus-Christ. Le don des langues existe depuis Actes des Apôtres, chapitre 2, il y a 2000 ans, lorsque le Saint-Esprit est tombé sur les apôtres. Et la troisième manifestation connue dans le Nouveau Testament du don des langues, c'est la xénoglossie. Xéno signifie en grec étranger, c'est du grec ancien. Et glossa, on l'a déjà vu, toujours en grec ancien, ça signifie langue. Langue étrangère, xénoglossie. Ici, il s'agit ici de ce qu'ont vécu Actes des Apôtres, chapitre 2, les apôtres. Lorsque eux, ils priaient en langue, les personnes les entendaient dans leur propre idiome, donc dans leur langue maternelle. Bien-aimés, le Seigneur, pour manifester sa puissance, une puissance au service de l'amour, parce que puissance d'amour va va aller justement à l'inverse de ce qui a été fait dans le livre de la Genèse à la tour de Babel. Vous connaissez l'histoire. Les hommes vont construire une grande tour pour toucher le ciel et puis le Seigneur, pour les confondre, va modifier le langage de tous, va mettre un peu, va leur donner des langages différents. Et là, ici, différemment de la tour de Babel, le Seigneur va unir l'humanité en faisant comprendre qu'il est le Dieu de tous les hommes. Bien-aimés, beaucoup disent que Jésus-Christ est le Dieu, Yahvé est le Dieu des Juifs. Bien-aimés, c'est faux. Il est celui qui a créé le ciel et la terre. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est le Dieu de tout homme. Et la Bible dit dans la première épître à Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance. La vie éternelle, dit Jésus-Christ de Nazareth, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Bien aimé, cette vie éternelle est pour tous les hommes. C'est pourquoi la Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, lorsque le Fils de l'homme aura été élevé sur le bois de la croix, il attirera à lui tous les hommes. Bien aimé, la xénoglossie est la preuve que Dieu est pour tout homme. Deux histoires rapidement. Alors, ma mère spirituelle, toujours un jour, elle est invitée au Brésil. Elle doit faire une prédication devant 400 000 à 500 000 personnes. Elle arrive, elle prend le micro, elle commence à prêcher en brésilien et l'interprète commence à soi directement. Bien aimée, pendant tout le temps de son séjour au Brésil, elle écrivait, elle entendait, elle prêchait dans leur langue, alors qu'elle ne l'avait jamais apprise. Lorsqu'elle est remontée dans l'avion, c'était plus la peine que ça se fasse. Dieu est intelligent. Bien aimé, il est l'intelligence même. C'est pourquoi, dans nos temps de prière, des fois, nous allons nous rendre compte qu'il y a des personnes, quelqu'un peut venir, c'est un Chinois, et personne ici ne parle chinois. Pendant que tu seras en train de faire « rem bam 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 dende », le Seigneur va faire en sorte que cette personne-là entende comment tu es en train de lui parler en chinois. Ou alors, toi, tu vas parler en chinois, en mandarin. Tu ne sauras pas pourquoi, mais en fait, il y a quelqu'un dans la salle qui comprend mandarin et peut-être ne comprend pas français, parce que le Seigneur veut que sa parole soit pour tous les hommes. Et sa parole, frères et sœurs, parole universelle, don universel de sa personne, est véritablement pour tous les hommes. Amen. Je me rappelle comme ça, je donne ce témoignage. Il y a de cela 2 ans, je priais du côté de, je priais du côté de la cathédrale Saint-Louis. J'étais avec un ami à moi qui était diacre à l'époque. Et puis, on était en train de discuter, on parlait, on discutait. Et il y a un monsieur qui passe, un francophone, il était venu en mission, il ne comprend pas français, donc il s'était arrêté à la grotte parce qu'il est chrétien catholique. Et puis, il s'arrête et il essaye de faire des signes, il parle et tout ça. Bien-aimé, il commence à parler. Il parlait en anglais. Moi, je ne suis pas anglophone. Je peux comprendre 2-3 mots, mais je ne peux pas tenir une conversation. Et frères et sœurs, il parle en anglais et rapidement, c'était même pas genre l'anglais des British, c'était l'anglais des States, vous voyez, c'est pas pareil, c'est pas l'anglais académique. Et là, il se met à parler. Et là, nous, on ne comprend pas. Et puis, on se dit, bon, on va cheminer ensemble parce que, bon, lui, il allait d'un côté, moi de l'autre. Donc, on laisse notre ami. Pendant qu'on est en train de marcher, je lui dis quand même le petit anglais que je connais, do you know Jésus-Christ? J'ai parlé comme ça, bon, enfin. Et puis il dit yes. Et quand il dit yes, il parle en anglais et je comprends très bien tout ce qu'il dit. Et moi, je parle en anglais et je parle très bien anglais. On a tenu une conversation, on parlait de Jésus, je lui parlais de l'amour de Dieu et lui me répondait. Et quand j'essayais de parler, parce que pendant que ça se passait, je me disais, bon, je vais essayer de parler de voiture et de ça pour voir. Bien aimé, lorsque je voulais parler d'autre chose qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu, je ne pouvais pas. Mais quand ça concernait le Christ, je parlais correctement, j'écoutais correctement et on se comprenait très bien. Bien aimé, xénoglossie. Et frères et sœurs, cette grâce est pour toi. Cette grâce est pour nous. C'est pour toute l'Église. Cette grâce, bien aimé, c'est véritablement le Seigneur qui veut nous rappeler et nous dire qu'il est puissant, qu'il est pour tous les hommes et il est pour chacun dans sa différence et sa personnalité. Amen.
Amen.
Alors, nous allons prendre 5 minutes pour les questions. Je vais prendre 2 ou 3 questions, s'il y en a, avant que nous ne prenions 5 minutes pour prier. Y a-t-il des questions? Si oui, tu peux lever la main et poser ta question.
Il y a Alix qui lève sa main.
Oui, oui.
Allô, allô André.
Allô.
Oui. J'ai une question, en fait, une question en même temps. Mm-hmm. Alors, pour dire, bon, je l'ai aussi un peu évoqué dans l'enseignement, que dire de nos prêtres, certains même qui sont même charismatiques, qui entretiennent le langage suivant, le parler en langue, normalement, doit être traduit comme le jour de la Pentecôte avec les apôtres. Il n'y a pas de raison que lorsque vous parlez en langue, on ne puisse pas entendre. Et même exiger à certaines assemblées de prières de ne pas parler en langue. Je me rappelle bien, je me tairais sur la paroisse, en train de préparer l'effusion, et on avait demandé, on avait exigé de ne pas parler en langue parce que, soi-disant, quand on se met à parler en langue, c'était raconte n'importe quoi, et des fois on peut invoquer autre chose. Donc, pour éviter cela, interdiction de parler en langue. Que dire de cela?
D'accord. Je vais répondre en parlant de Saint Augustin d'Hippone, né le 13 novembre 354 à Tagaste. Il était évêque à Hippone, Saint Augustin d'Hippone. Philosophe et théologien chrétien, il était l'évêque d'Hippone en Numidie. Saint Augustin d'Hippone, après le baptême et même après une célébration eucharistique, des fois disait que les prophètes prophétisent et que ceux qui prient en langue prient en langue. Bien-aimés, je crois que c'est, comment il s'appelle, le théologien, là, l'un des premiers, je crois que, oh, comment il s'appelle, il y a un théologien, l'un des premiers théologiens chrétiens, il était de, j'ai oublié son nom, ça va me revenir, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des cardinaux qui prient en langue, Saint Augustin d'Hippone priait en langue, de nombreux saints priaient en langue, de nombreux prêtres priaient en langue. L'Église soutient le don des langues. L'Église soutient que le don des langues, c'est la glossolalie. L'Église soutient ça. Après, certains peuvent ne pas être d'accord, mais n'empêche que c'est la réalité, c'est la vérité. Et l'exercice du don des langues existe depuis des milliers d'années. Et donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça parce qu'ils ne croient pas, ben, c'est parce que c'est l'ignorance, c'est tout. Et que Dieu touche leur cœur pour qu'ils puissent comprendre. Vous savez, je veux dire, je peux être chrétien, mais ne pas être d'accord avec certaines choses qui sont enseignées dans l'Église. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai. Ça veut simplement dire que bon, je suis soit un peu ignorant, soit dans ma liberté, je refuse d'y croire. À ce moment-là, on peut rien faire. On peut juste leur souhaiter d'être touché par la grâce de Dieu, un peu comme ce journaliste-là. Tu peux rien faire. Dieu seul peut toucher son cœur. C'est tout. On n'a pas à convaincre les gens du don des langues. On a juste à enseigner ce que Dieu dit, ce que l'Église dit. On a juste à mettre les gens face à la réalité. La réalité, c'est que le don des langues n'est pas nouveau. Le don des langues est pratiqué depuis des siècles dans l'Église. C'est un don charismatique. Et les évêques prient en langue, en tout cas certains, beaucoup. Et des cardinaux, et certains papes, et vous et moi. Donc, que le Seigneur leur donne de comprendre que ça vient de lui. C'est tout, tu ne peux rien faire d'autre. Vous savez, même du temps de l'apôtre Paul, il y a des gens déjà qui avaient déjà des disputes. Il y avait des disputes en disant, ah, mais prière en langue, et tout ça. L'apôtre Paul, lorsqu'il dit, celui qui prie en langue s'édifie lui-même, c'est parce que même de ce temps-là, il y avait déjà des gens qui se disaient, bon, prier en langue, et tout ça. Bien-aimé, vivons notre vie chrétienne à fond, dans le Saint-Esprit, et ceux qui ne comprennent pas, ben que Dieu leur donne de comprendre. C'est tout. Voilà. Il y a une autre question? Il n'y a pas d'autre question. Attends, il n'y a pas de question, waouh, parce qu'on a tout bien compris. Ou bien c'est parce qu'on n'a rien compris même. Hein?
André, si ça va, si tu me permets, j'ai envie de...
Oui.
Je peux? Alors,
oui.
J'aimerais dire à quelqu'un que, par rapport à ce que le frère André dit, j'aimerais parler de mon expérience personnelle. Alors, en ce qui concerne le don en langue, le don des langues, c'est que moi de base, et je crois que des gens ici le savent un peu, j'ai vraiment une approche à la fois qui est très intellectuelle. C'est-à-dire que je suis passionné de théologie, de philosophie, de l'histoire de l'Église, de comprendre pourquoi, le pourquoi du comment dans l'Église. Ça me passionne énormément. Et donc, en fait, la manière dont l'Église voit certains éléments charismatiques, j'ai parfois tendance à me l'expliquer d'une certaine façon, à comprendre un peu la position de l'Église vis-à-vis de certaines choses. Et jusqu'à il y a 2 ans en arrière, avant que je ne fasse l'expérience véritable du Saint-Esprit, j'étais plus ou moins d'accord à 100%. Après, aujourd'hui, je ne remets pas en cause ce que l'Église dit, parce que l'Église est quand même garante de ma foi, parce que quand je fais le credo, je dis « je crois en l'Église qui est sainte et apostolique ». Donc, il faut vraiment comprendre ce que je dis. Ce que je dis, c'est que il y a des choses que pour les comprendre, il faut les expérimenter. Voilà. Donc moi, je parle à quelqu'un qui est là peut-être, qui m'écoute, qui a une tendance à percevoir le parlant en langue comme du bruit, voilà, comme du m'as-tu vu. Parce que moi aussi, je voyais les choses comme ça. Ouais, tu veux bien te faire voir, tu veux te faire passer pour un pasteur ou voilà, c'est un truc qui vient des églises de réveil. Tu as peut-être un ministère, tu prêches peut-être l'évangile et tu as envie d'avoir une certaine envergure dans ton ministère. Et tu as l'impression que tu es limité. Voilà. Mais le Seigneur veut vraiment t'emmener à expérimenter ce mystère. Et je te garantis quelque chose, c'est que c'est le Seigneur seul qui saura comment il va te faire pratiquer cette chose qui est formidable. Alors moi, ce que je comprends, c'est que l'Église a beaucoup peur des dérives. Lorsqu'on voit plusieurs personnes prier, crier, faire des... Voilà, ça donne une impression de désordre, une impression de voilà, il n'y a pas d'organisation. Et l'Église aime organiser, l'Église aime manager, l'Église aime que les choses soient faites de telle sorte que ça n'échappe pas forcément à leur vigilance. Voilà, l'Église, c'est comme 2000 ans d'histoire. Et il faut comprendre un peu leur manière de voilà, la manière dont le clergé voit les choses. Mais vraiment, j'insiste sur ce point, le parler en langue, le Saint-Esprit, on l'expérimente, on ne le raconte pas. Nous, ce qu'on peut faire, c'est le prêcher, dire que oui, le Saint-Esprit existe. Voilà, il y a la Pentecôte, on lit tous la Bible, mais la Bible, c'est quelque chose qu'on peut lire intellectuellement, mais surtout qu'on doit vivre spirituellement. Donc, c'est-à-dire que vraiment, bien-aimés, prions. Prions pour expérimenter ce don, parce que je t'assure que dans la prière en langue, non seulement tu vas aller en eau profonde, non seulement tu vas défoncer des portes, non seulement tu vas gagner des victoires, mais tu vas te rendre compte de quelque chose d'extraordinaire, c'est que ta vie de foi va être pleinement transformée. Il y a quelque chose d'autre qui va se passer. Ton zèle pour l'évangile sera différent. Mais ce n'est pas parce que tu liras plus la Bible, c'est parce que tu vas habituer ton corps à vivre selon qu'il doit vivre, donc c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais inciter. Moi, franchement, quand le frère André a demandé les questions et tout, moi, je me disais qu'il devait avoir quelqu'un là qui allait dire, mais est-ce que, comment on fait pour moi, je parle en langue, qu'est-ce que je dois faire ce soir? Voilà, des questions un peu banales comme ça, mais qui montrent qu'en vrai, il y a ce désir-là. Moi, je veux nous emmener à désirer le Saint-Esprit. Vraiment prier, mais prier sans cesse et dites à chaque fois, Seigneur, je ne comprends pas ce dont ces gens sont en train de parler, mais ok, je pense que tu peux aussi me donner de l'expérimenter, je veux l'expérimenter ce soir et j'ai envie de voir de quoi il s'agit. Et je t'assure, bien-aimé, tu seras béni. Voilà, c'est ça que j'avais à dire, merci.
Amen.
André, tu me permets là? Tu me permets là, André?
Absolument, oui.
Vas-y. Merci.
Mais juste avant, j'aimerais juste répondre à la question de... Bon, je ne vais pas le... Voilà. Il y a mon frère qui pose la question. savoir à quel niveau se situe la frontière entre le mimétisme et l'action pneumatologique. En d'autres termes, à quel niveau se situe la frontière entre le fait de simplement copier quelqu'un qui prie en langue et le faire simplement en disant un peu n'importe quoi. Comme le disait à l'époque, il y a eu un fervent défenseur de ces choses-là à l'époque, il s'appelait Steam V, ici au Gabon. Et l'action pneumatologique, c'est-à-dire la grâce de l'Esprit-Saint qui te donne de prier en langue. Alors, la frontière, ben, pour répondre à la question, je vais dire deux choses. Déjà, dans le Nouveau Testament, nous voyons l'apôtre Paul qui va... comment on appelle ça ? Nous voyons en fait les apôtres qui vont prier en langue, qui vont prier et qui vont recevoir le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'ils se mirent à prier en langue et à prophétiser. Ils se mirent à prier en langue et à prophétiser. C'est-à-dire que l'action du parler en langue va être précédée par le don de l'Esprit. Par le don de l'Esprit. En d'autres termes, la première frontière que nous pouvons avoir de façon claire, c'est que celui qui doit prier en langue doit d'abord passer par le baptême dans l'Esprit. C'est-à-dire, doit faire l'expérience charismatique du Saint-Esprit. L'expérience charismatique du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement la grâce qui est décrite dans Acte 2 où quelqu'un qui avait peur avant, il sait que Jésus-Christ existe, il avait peur avant et de ça, et puis la force de Dieu vient sur lui, et puis là, il n'a plus peur. Voilà, c'est aussi ce qui est dans Actes des Apôtres, Romains chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, c'est vraiment cet autre nous, pas cet autre nous, c'est ce tout autre qu'est Dieu, Dieu le Saint-Esprit, qui vient, en fait, dans notre vie, nous remplir de lui, de sa force, et là, à ce moment-là, à partir de là, nous pouvons prier en langue. Donc, la première frontière, c'est lorsqu'une personne prie en langue, pour discerner la première chose, c'est est-ce qu'il a fait une expérience charismatique du Saint-Esprit ? C'est très clair. Celui qui n'a pas fait d'expérience charismatique du Saint-Esprit ne peut pas prier en langue parce que le don des langues est un don charismatique du Saint-Esprit. C'est la première chose. La deuxième chose, justement, pour du bon discernement, vraiment faire la frontière entre le mimétisme et voilà, c'est que celui qui prie en langue, celui-là, si tu dois faire un discernement même pour toi-même, hein, personnellement, celui qui prie en langue, parce qu'il mime, le fait soit par orgueil, c'est-à-dire pour être vu, évidemment, et effectivement, il y a des faux parlés en langue, soit pour être vu, soit parce que simplement, ben, ça l'amuse. Et cette personne-là sait très bien que cette personne a forcément le désir d'être vue. Je veux dire, lorsque ça ne vient pas de l'esprit, tu as forcément une raison. Et cette raison ne peut pas être une raison spirituelle. C'est forcément une raison qui vient de la chair parce que c'est une œuvre charnelle que de mimer un don de Dieu. Donc, celui qui prie en langue, il n'y a pas d'humilité en lui, qui veut se faire voir, il y a de grandes chances que ça ne vienne pas de Dieu. Voilà. Celui qui prie en langue sous l'action du Saint-Esprit ou qui reçoit le don lorsqu'il prie en langue, il ne le fait pas parce qu'il veut se faire voir. Il va le faire parce que simplement, il a reçu ce don de Dieu et il veut honorer Dieu par ce don. Voilà. La troisième chose que j'ai envie de dire, c'est que au-delà même de la frontière entre le mimétisme et l'action pneumatologique du Saint-Esprit, c'est il y a une réalité, c'est qu'il y a des parlants en langue démoniaque, ça existe. Lorsqu'il y a un exorcisme à faire dans l'Église, c'est-à-dire il faut chasser Satan, il y a trois signes clairs qui sont à discerner pour qu'on fasse un exorcisme, le grand exorcisme. Premier signe, c'est la personne a une force surhumaine. Le deuxième signe, c'est que la personne peut deviner ta vie, voilà, et connaît des choses sur ta vie, comme ça, deviner ta vie, dire des choses, parce que les démons, il est possédé par le démon, donc il sait ce que les démons savent. Et la troisième chose, c'est un faux don des langues, un don des langues démoniaque. Voilà. Ce don des langues démoniales est purement satanique. Et pour le discerner, il faut soi-même vivre un don des langues véritable. Bien-aimé, toi qui vis dans la vérité, forcément, tu peux discerner le mensonge parce que tu t'es habitué à être dans la vérité. Voilà, c'est ce que je peux dire. Après, ce n'est pas exhaustif.
André, tu me permets, en fait, par rapport à ce que tu as à peine de dire, alors toujours pour ma propre expérience, avant que je ne parle en langue, je voulais tellement avoir ce don en langue, vraiment, hein, parce que j'avais lu et j'avais compris plus ou moins la nécessité de l'avoir, et donc j'ai prié beaucoup pour l'avoir. Et le truc, c'est que ce qui revenait souvent des enseignements que j'écoutais, c'était, mais déjà, tu as la certitude que tu as expérimenté le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est des gens qui ont expérimenté le baptême du Saint-Esprit, mais qui ne parlent pas en langue. Ça aussi, il faut le rappeler. Donc, c'est vraiment un don qu'on reçoit. Et comme tu le disais, il y a des gens qui ont le don de prophétiser et d'autres qui ont le don des langues. Donc, vraiment, si tu as reçu le baptême du Saint-Esprit et que tu n'arrives pas forcément à parler en langue, ne panique pas. Ne te dis pas que, est-ce que vraiment j'ai reçu le baptême? Le parler en langue n'est pas le signe par excellence qui atteste de ton expérience de l'amour de Dieu. Voilà, à sa première chose. Mais moi, je voulais tellement recevoir ça parce que j'avais expérimenté une expérience qui a failli me faire péter un câble parce que j'ai littéralement écouté la voix de Dieu. Il m'a parlé, il s'est révélé à moi. Et donc, j'avais envie d'expérimenter ça. Et donc, j'ai tellement prié et qu'on me disait, si tu veux l'expérimenter, tu dois commencer par, voilà, tu dois commencer par parler en langue, quoi. Et ça viendra. Mais à chaque fois, André, je te le dis, à chaque fois que j'essayais, même moi-même, je m'écoutais, je sentais que je parlais dans la chair. C'est-à-dire que tu t'es dit, ce que j'ai dit, c'est n'importe quoi. Voilà, tu sens que, rimbalabala, ce n'est pas ton truc. Donc, tu sais que ce n'est pas vrai, tu vois. Mais je ne désespérais pas parce que je savais à ce moment que je n'y arrivais pas. Voilà, je forçais, je priais en langue dans la chair, comme on dit souvent. Et donc, vraiment, c'était faux. Et c'est un soir où, quand je l'ai véritablement expérimenté, déjà, j'étais seul à la maison et tout, mais c'était un désastre. J'ai fait du bruit, mais je n'arrivais pas à m'arrêter tellement ça sortait seul. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui me tirait des paroles avec ses mains. C'est-à-dire que je suis en train de parler, mais je ne maîtrisais pas. La première fois, généralement, ça paraît un peu… voilà. Et c'est comme un enfant qui apprend à marcher au fur et à mesure. Ça va finir par s'affiner. Alors, c'était de un, mais de deux… une fois à l'église, dans le renouveau charismatique, j'avais expérimenté un temps avec des frères où on priait en langue. Donc moi, je priais déjà en langue depuis un moment. Et j'avais un frère qui est plutôt quand même un ancien dans le renouveau. Et on priait ensemble. On devait être à peu près 8. Et donc, on priait en langue. Tout le monde priait en langue. Mais bizarrement, le frère, quand il priait, ça me piquait aux oreilles. C'est-à-dire qu'il priait. C'était désagréable, OK? Mais je me disais peut-être que, est-ce que ce n'est pas moi le souci, mais vraiment, c'était désagréable à entendre son parler en langue. Et moi, j'ai continué simplement de prier. J'étais en train de prier, et là, le berger Willy est venu, il était en train de donner des paroles de connaissance, et il est venu chez le frère. Il a fait vraiment avec beaucoup de tact, beaucoup de sagesse. Et il a dit au frère, je prie pour toi, pour que, à partir de maintenant, tu commences à prier véritablement dans l'esprit. Parce que pour le moment, tu ne pries pas encore dans l'esprit. C'était pour dire qu'en fait, il priait dans la chair. Effectivement, il m'y met. Et ça se sent. Donc après, j'aimerais dire que, effectivement, lorsqu'on essaye de différencier ou même de comprendre quelle est la différence entre celui qui parle véritablement ou bien celui qui imite, alors, l'objectif du parler en langue n'est pas forcément qu'on écoute si celui qui parle en langue dit vrai ou il dit faux. Ça, c'est pour les personnes qui considèrent que le parler en langue, c'est un indicateur par excellence de sainteté. Or, ce n'est pas ça l'objectif, parce qu'il y a des personnes qui parlent en langue, mais qui font aussi n'importe quoi. L'objectif du parler en langue, vraiment, c'est de grandir dans sa foi, d'abord, personnelle. Et je crois que lorsque Saint Paul dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, c'est parce que dans le parler en langue, il y a une dimension vraiment pédagogique, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui nous nourrit clairement, qui nous fait grandir. Donc c'est d'abord quelque chose de personnel. Le parler en langue, on ne l'exerce pas pour faire le match vu. Déjà la parole dit que celui qui prie en public a déjà eu ce qu'il voulait. Donc vraiment l'objectif du parler en langue, c'est d'avoir une intimité différente, d'avantage s'immerger dans les eaux du Saint-Esprit. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire juste pour un peu abonder dans ce que tu disais déjà et encore insister sur quelque chose. Vous m'excuserez, mais je vous en prie, s'il vous plaît. Les amis, prions en langue. Prions en langue. Voilà.
Alors, vu le temps qui nous est imparti, je ne sais pas. Bon, après, je le demande clairement. Est-ce qu'on peut encore prendre... Est-ce qu'on peut prendre 3 minutes? Ou alors c'est... Ou... Est-ce qu'on peut prendre 3 minutes pour faire un exercice pour le don des langues? Ou c'est plus la peine? Je vous demande. Donc, est-ce que c'est possible, avant de passer aux annonces? Là, il est 22h29. Est-ce que c'est possible de prendre 3 minutes, c'est-à-dire de 22h29 à 22h32? Est-ce que c'est possible? Après, on passe aux annonces et puis... C'est possible? OK. Alors... D'accord. Donc, OK, ben nous allons faire l'exercice. Korimba katakaraba shokoto konda katakaraba sonde. Sokonte kerebo sakatakaraba rekete kereba. Koramba katakaraba sokoto shakatakaraba rokoto ndende. Rintaraba sorende rebo sokoto rimba katakaraba. Korimba katakaraba sokoto shakatakaraba rekete kereba. Rimbambambamba sokoto rimba katakaraba shonde. Sorimba yatolo koto saka takaraba rekete kereba. Kurababa baroka takaso koto shekete kereba. Kurinde rebo saka takaraba roko tenenda. Rimba katakaraba sokoto rende kerebo shaka takaraba. Rete kerebo sokoto rende rebo saka takaraba rekete kereba. Kinte kerebo sirete kerebo shaka takaraba roko torende rebo torende rebo. Korimba katakaraba rokotonde kete kerebo shakatakaraba. Korakatakaraba sokoto romba katakaraba rekete kerebo. Sorimba yatolo koto shakatakaraba rekete kerebo. J'aimerais demander à toutes les personnes qui veulent prier en langue et ceux qui en ont reçu le don mais qui soient en doute ou ont du mal à exercer, je vais vous demander simplement de poser une main sur votre langue, sur votre gorge, voilà, et de faire cette prière avec moi. Alors, faites-le avec moi en disant simplement, demandant simplement, voilà, Saint-Esprit de Dieu, accélère maintenant mon apprentissage pour le don des langues que tu m'as donné, pour ceux qui l'ont reçu. Ou accélère l'apprentissage pour le don des langues que tu m'as donné, mais dont je doute. Ou, Seigneur, je veux ce don, je veux recevoir ce don. Toi qui es le donateur par excellence, je veux ce don pour t'adorer dans la vérité. Vous pouvez simplement le faire. Pendant que tu seras en train de le faire, si le Seigneur te donne un signe clair, c'est-à-dire soit tu entends dans ton esprit c'est-à-dire les anamatopées, ces syllabes-là qui viennent. En fait, c'est le Seigneur qui t'apprend à le faire. Si ta bouche s'ouvre seule, c'est Dieu qui t'apprend à le faire, donc tu as juste à te laisser conduire et à ne pas essayer de contrôler. Voilà, ne prie pas, il s'agit ici de ne pas prier avec son intelligence, mais plutôt de se laisser conduire par le Saint-Esprit, de se laisser, de s'abandonner à lui. Et pour d'autres, si vous allez ressentir au niveau de votre gorge et de votre langue de la chaleur, ou même d'une grande fraîcheur. À ce moment-là, laissez-vous conduire et soyez vraiment, mais vraiment, totalement, soyez tranquille en fait, soyez détendu. Voilà. Gardez juste à cœur le désir d'adorer Dieu, le désir de l'élever, et voilà. C'est en train de se faire maintenant. C'est en train de se faire maintenant. Kintokorobara katakaraba shokotonde. Il y a certains, ça va vraiment exploser. Ça va venir comme du ventre, monter. Et tu ne pourras pas te retenir. Ça va être fort, ça va exploser. Laisse-toi faire. Il y en a qui ont reçu le don, mais ce don, c'est vous l'avez expérimenté dans un songe. C'est-à-dire que dans un songe, vous vous êtes retrouvé dans une situation, une circonstance, et puis vous vous êtes mis à parler en langue de façon très naturelle, mais véritablement conduit par le Saint-Esprit. En fait, tu as reçu le don, et voilà. Tu peux maintenant l'exercer. Il y a une chose que j'aimerais nous dire, c'est que le don des langues est un don que tu n'es pas obligé de sentir la présence de Dieu pour le déclencher. De la même manière que pour prier le Notre Père, je n'ai pas besoin que Dieu me le demande, je n'ai pas besoin de ressentir quelque chose, d'avoir une sensation. Je peux le faire simplement parce que je sais que je dois prier mon Dieu quand je vais être en communion avec lui. De cette même manière, n'attends pas forcément de sentir Dieu pour prier en langue. Il y a des gens, ils ne prient en langue que dans les assemblées charismatiques où ils sentent la présence de Dieu. Non, que tu sentes, que tu ne sentes pas, tu peux prier en langue si tu en as reçu le don. Là, je parle de ceux qui ont clairement reçu le don et qui, en fait, ont du mal à exercer parce qu'ils se disent, si je ne sens pas la présence de Dieu, si je ne sens pas Dieu qui me pousse à prier en langue, je ne prie pas en langue. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu peux commencer à prier en langue et puis, de toutes les façons, Dieu t'écoute. Et même des fois, quand tu prieras en langue comme ça, le Saint-Esprit prendra le relais et tu sentiras justement qu'il t'accompagne là-dedans. Keremba kata karabaro kotonde, remba kata karabaro. Rinte kerebo shakata karabaro kotonde. Reinta rabasonde, rente kerebo sonde, rete kerebo. Osa kata karabale nderebo, inderebo shalimba rabasole nderebo. Indarabasole mbala kata yabale keterebo. Olenda la bachele rembaya tolo koto sokotone. Indalabale ketelebe. Il y a certains, vous commencez à prier en langue, mais vous, parce que vous essayez de contrôler, vous le faites bas. Ouvrez bien la bouche et priez un peu plus fort. Koremba katakaraba sokotone. Priez un peu plus fort. Rente kerebo shakatakaraba. Rembambambambandende keto kumba katakaraba rokoto koto kumba katakaraba shinta rabasonde. Rekete kerebo sokoto shakata karaba rekete kerebo rokoto renderebo sarenda raba sokoto lenderebo shayata kalaba elenderebo solenkete kerebo shakata karaba rokotonde rimbambambambambam. Merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu pour ta grâce, ton amour et ta lumière. Amen.